6h03 exactement, mardi 18 septembre. Bonne journée, bienvenue au 88.5 FM. Une autre journée chaude, humide, avec plus de nuages par contre. D'ailleurs, c'est généralement nuageux aujourd'hui. Faible risque d'averse, particulièrement ce matin. Le maximum prévu 26, l'humidex à 32. Ce soir et cette nuit, généralement nuageux, 13 au cours de la nuit. Donc, vous voyez que ça commence à baisser. Et demain, on prévoit un ennuagement avec des périodes de soleil, de nuages, maximum autour de 21. Jeudi, 22, avec pas mal de nuages, mais aussi un peu de soleil. Et finalement, pour vendredi, on prévoit des averses avec un maximum de 24. Et pour le week-end, température qui baisse sous les 20 degrés. Là, on parle d'un beau week-end, du soleil, mais autour de 17 degrés pour les deux journées. Vous connaissez l'expression légendaire, vous n'êtes pas tanné de payer bande de cave. Elle s'applique directement ce matin. Depuis qu'on a pris connaissance du bureau, du rapport biannuel du BIG, le bureau de l'inspecteur général. Je vais vous résumer ça ce matin, là. Et ça montre à quel point l'administration municipale est soit incompétente, insouciante, mais paye pour des travaux mal faits. Et là, on n'est pas dans la corruption. C'est facile de dire qu'il y a une collusion pour préparer les appels d'offres. On se partage les territoires. On n'est pas dans ça, là. Il y a deux volets dans le rapport. Les trottoirs. Pendant 20 mois, on a enquêté sur le monde des trottoirs. Pourquoi? Est-ce que les monsieur Migliotto de ce monde et autres joueurs qui avaient été identifiés devant la commission Charbonneau étaient toujours actifs? La réponse, oui et non. Ce ne sont plus les gens de première ligne, mais souvent, on revendu à quelqu'un de la famille. Autrement dit, ça tourne autour. Ils sont jamais trop loin. Mais on n'a pas de preuve qu'il y a un cartel du trottoir qui existe. Ça semble se passer actuellement dans les règles. Mais c'est pas pour rien qu'on a enquêté pendant 20 mois. C'est que, pour reprendre une expression aussi bien connue, t'enlèves les mauvaises herbes, elles repoussent. Et tu dis combien de temps ils vont demeurer comme ça en périphérie. Mais là où c'est carrément scandaleux, on a fait 83 opérations de vérification de chantier, de reconstruction de trottoirs, mais de resurfaçage des rues. La conclusion, là, quand vous m'écrivez et vous me dites, « Monsieur Arcan, la Ville a fait des travaux sur ma rue il y a 2 ans, les nids de poules sont réapparus. Monsieur Arcan, ils sont venus l'été passé, il faut qu'ils recommencent les travaux cette année. » Là, tu te fais répondre par les gens de la ville que c'est un cas isolé, puis que pas vrai. Alors, qui sont les gens qui font les travaux? D'abord, les firmes ne sont pas identifiées, mais ce sont des entrepreneurs qui veulent en mettre plus dans leur poche. Donc, qui répondent à un appel d'offres, qui est précis, il y a un devis, puis ils font la job tout croche. Et ils s'en sacquent. On a des surveillants de chantier qui sont là supposément pour s'assurer que le devis est respecté. Alors, il y en a qui ont la compétence relative. Deuxièmement, vous comprenez qu'un chantier de construction, c'est pas, disons, une église, même si ça sacre pas mal, et que le préposé, le surveillant, se fait engueuler. Ils ont été témoins de ça, là. Le BIG a été témoin d'un gars qui arrive avec une bétonnière puis qui gueule après l'autre, puis l'entrepreneur, puis tu sais, t'as 6-7 personnes sur le chantier. Autrement dit, des entrepreneurs véreux qui, eux autres, se saquent de la qualité, puis des superviseurs, des surveillants qui se font intimider, fait que dans certains cas, ils ferment leur gueule, puis des petits boss qui veulent pas trop entendre parler de ça. C'est ça le scénario de la ville. Alors, si vous demandez pourquoi c'est tout le temps bloqué à Montréal, pourquoi il y a tant de chantiers à Montréal, c'est parce qu'on est géré par une gang d'incompétents ou d'insouciants. C'est proprement scandaleux. Ça, c'est un vrai scandale. Je vais vous donner juste un exemple. Je lisais le rapport, là. Okay, l'entrepreneur est supposé fournir 2 appareils lourds pour niveler puis mettre l'asphalte. Okay? parce que la rue est large, puis tu veux que la job soit bien faite. Il accepte de faire ça. C'est dans le devis. Mais ça coûte cher, tu comprends? Fait qu'on va prendre juste un appareil lourd, pièce d'équipement lourde, pour faire la job, puis on fera les deux bars. Ce qui fait que la rue, là, en plein milieu, vous voyez comme ça l'espèce de remontoir, si on veut. C'est mal fait. C'est une job de cochon. Malheureusement, je ne sais pas qui sont les entrepreneurs. Est-ce que la ville va faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont s'enlever les doigts dans le nez? Je ne sais pas, là, mais moi, là, c'est une affaire qui m'insulte. Tu fixes les devis. Tu participes à un appel d'offres. T'acceptes de prendre le contrat, puis dès que t'as une chance de me voler, de me fourrer, ben tu sautes d'aplomb puis tu le fais. Puis ça, c'est Montréal. Imaginez-vous ailleurs. En passant, les enquêteurs sont intervenus et ont corrigé la situation. Puis ça, c'est un message aux autres villes du Québec. Si vous pensez qu'à Montréal, que ces choses-là se produisent, vous devriez peut-être avoir l'équivalent d'un big dans vos villes. Parce que ça, c'est des interventions qui font sauver de l'argent aux contribuables. Nous allons parler avec le responsable des infrastructures un peu plus tard ce matin. Aussi, on va parler de cette étude. En fait, c'est ce qu'on appelle l'informateur fiscal. C'est Yves Chartrand, qui est fondateur et président du Centre québécois de formation en fiscalité. Et il publie son deuxième bulletin sur ce qu'il appelle la grande déroute fiscale du ministère des Finances et des fonctionnaires. Et le titre, je trouve ça bien amusant, c'est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il montre comment les fonctionnaires du ministère des Finances du Canada échouent à remplir leurs tâches de façon correcte. Et on donne des exemples, puis c'est pas des farces, là. Environ 13 000 enfants âgés de 0 à 19 ans auront réalisé depuis 2001 un total de près de 3 milliards de gains en capital exemptés d'impôts à la vente d'actions de PME. Des enfants, là, ou des mineurs. La chasse aux honnêtes contribuables, qui, évidemment, souvent n'est pas équipée pour se défendre, alors qu'il y a des centaines de millions qui échappent à l'impôt. Puis là, je ne parle pas que des paradis fiscaux. On va également parler d'erreurs de 2,5 milliards en retardant inutilement l'ajustement de l'imposition des dividendes. Alors, on est en pleine campagne électorale. Là, ce sont des chiffres du gouvernement fédéral, là. Mais on nous lance les milliards à la face, puis ça serait intéressant de savoir, puis il y aura une campagne là, au fédéral, les montants d'argent qui sont laissés sur la table. Et dans certains cas, c'est voulu. Une fiscalité qu'on veut comparative. 6h11, Marc, quels sont les points chauds? Parfait, on poursuit la revue de presse. On va parler de la campagne électorale. D'abord, il y a un sondage ce matin qui confirme ce qu'on voit depuis quelques jours, c'est-à-dire une baisse importante des appuis à la CAQ. Donc, sondage Main Street qui a été mené pour le groupe de journaux Soleil Capital, ça s'appelle la compagnie. Alors, vous avez entre autres le Soleil donc de Québec, ce qui montre que la CAQ est à 29,1 après répartition des indécis, 28,6 pour le Parti libéral. Ça veut dire quoi, là? C'est un écart d'à peu près 1,5%. On est dans la marge d'erreur. Ça veut dire que ça pourrait être aussi bien le Parti libéral ou la CAQ qui forme le prochain gouvernement. C'est extrêmement serré. Et le Parti libéral bouge pas trop. Perd pas, gagne pas. La CAQ perd pas mal d'appui. Le Parti québécois est à 21,5%. Et Québec solidaire est à 17,1%. Il y a d'autres sondages par d'autres maisons qui s'en viennent dans les prochains jours. Officiellement, compte tenu du vote francophone qui est toujours favorable à la CAQ serait donc capable de former le gouvernement, mais possiblement, parce qu'il y a des luttes très serrées dans plusieurs comtés, un gouvernement minoritaire. Il y avait le débat en anglais hier, que j'ai écouté. D'abord, juste une parenthèse, j'anticipais une catastrophe pour Manon Massé. Je me suis dit, ça va ressembler à Elisabeth May dans un débat en français au fédéral. Ça, c'est épouvantable. Mais non, C'est qu'évidemment, c'était pas parfait, là. Puis il y avait des nuances que elle n'arrivait pas à faire, j'imagine, à son goût. Mais sincèrement, c'était très honnête comme performance. C'est sûr que comme au débat francophone, elle est surtout là pour présenter les éléments du programme. Alors, de quoi a-t-on parlé hier? Un peu des mêmes sujets que du côté francophone, c'est-à-dire, on a parlé d'éducation. Par exemple, l'accès à des spécialistes pour des enfants qui sont en difficulté, le dépistage. On a parlé d'accès aux soins de santé pour les anglophones, évidemment, dans les régions. On a parlé d'immigration. Je sais, là, il y a plein de gens qui m'écrivent en disant « On est tanné d'entendre parler d'immigration, on peut-tu passer à d'autres sujets? » La réponse est oui, on va passer à d'autres sujets, mais il faut quand même en parler. D'ailleurs, il y a une étude ce matin qui est rendue publique et qui nous montre que quand vous regardez les chiffres, c'est vrai qu'il y a plus d'immigrants qui quittent le Québec, là. Québec retient moins ses immigrants que l'Ontario, par exemple. Mais c'est pas la catastrophe, nécessairement. Et on sent que le français aussi progresse. Et l'emploi, c'est vrai qu'on est dans une société quand même où le taux de chômage est très bas. Alors, il y a des gains à faire encore, mais disons que ça s'améliore pas mal comme phénomène d'intégration au marché du travail. Et puis, on est revenu sur le « bonjour, aïe », là. Et, monsieur, parce que, rappelez-vous, la motion à l'Assemblée nationale, initiée par Jean-François Lisée, appuyée par les partis, entre autres le premier ministre, M. Couillard, qui disait souhaiter qu'on accueille la clientèle locale et les touristes avec un bonjour et pas un bonjour aïe. Et M. Couillard, donc, avait appuyé cette motion-là. Et hier, devant l'auditoire anglophone, il a dit que c'était un incident. Là, il faut être sérieux, là. T'as plus une motion où tu fais juste un peu de sparage comme ça. Puis là, quoi, tu t'excuses auprès de l'électorat anglophone d'avoir voté pour la motion. Disons que c'était pas sa meilleure. Et là où c'était quand même assez amusant, c'est quand M. Legault a dit à M. Couillard, vous êtes un médecin, moi je suis un administrateur, moi je sais compter. Et M. Couillard de répondre, si vous étiez mon comptable, je vous aurais congédié. Ça, c'était pour marquer encore plus le fait qu'il était peut-être un peu brouillon. En tout cas, c'est... Et je vous le disais hier matin, je pense que ça va être ça, la campagne. Là. On est dans l'attitude, la personnalité des chefs. Et avec un sondage qui est serré comme ça à l'échelle du Québec, ça va jouer dur, évidemment, jusqu'à l'élection. Bon, ensuite de ça, ce matin, je suppose que vous avez vu cette campagne qui a été lancée il y a quelques jours des magasins Simons. Et on avait lancé des soutiens-gorge avec des noms de personnalités de femmes. Puis il y avait Gabrielle Roy, puis il y avait même une juge en chef de la Cour suprême du Canada, et qui s'appelle Mme McLaughlin, première femme à être nommée juge en chef. Fait que là, c'était le génie qui a pensé à ça. Lui, il s'est dit, on va rendre hommage aux femmes, puis on va leur faire un design de soutien-gorge prestigieux. Puis les femmes vont être attirées par le soutien-gorge parce que ce sont des femmes qui ont marqué l'histoire. Eh bien, hier, le président de la compagnie a envoyé une lettre d'excuse en disant que l'initiative était de mauvais goût. Je vous présente mes sincères excuses. Ils vont contribuer à une fondation pour se racheter et en disant que c'était une mauvaise idée. La maison Simons dit avoir compris et va contribuer donc à la campagne de financement de la Maison des femmes à Ottawa. Alors, mais le boss de la compagnie dit « j'assume », parce que ça se rend jusqu'à moi, ces affaires-là. Et disons qu'on a mal évalué la réaction des gens, c'est le moins qu'on puisse dire. Aussi, ce matin, il y a un truc dans le Journal de Montréal sur le gaspillage alimentaire. On a beaucoup parlé des emballages en plastique là, qui se multiplient, c'est comme... Ça devient parfois, là, tu sais, on fait une grosse histoire sur les bouteilles d'eau, là, puis sur les sacs, mais quand vous allez dans certains supermarchés, l'emballage comme tel, ça a presque plus de bon sens. Mais il y a un autre aspect qui est important. Des gestionnaires d'épicerie qui considèrent le système de date de péremption comme trop sévère. Autrement dit, qu'il y a des produits qui pourraient être vendus, mais que en raison des normes qui s'appliquent, on est obligé de jeter plus de choses. Et au Canada, on évalue à 31 milliards le gaspillage alimentaire. Alors, ce qu'on remarque, c'est que les fruits et les légumes, donc qu'on jette au moins une fois par semaine, là, c'est 14,1%. C'est le produit, en fait, alimentaire, là, les fruits et les légumes qu'on jette le plus, surplus du repas préparé à la maison. Tu sais, les restes, là, vous mettez ça dans le frigo le lundi, puis le jeudi, vendredi, ça finit dans la poubelle. Des pains et produits de boulangerie, viande et charcuterie, et finalement, produits laitiers et les œufs. Alors, il n'y a pas que la date de péremption qui, évidemment, peut poser problème. Il y a un certain nombre de choses, là, les habitudes des gens. Et on a beau dire que les gens n'aiment pas le gaspillage, dans les faits, c'est quand même plus ou moins vrai. Il y a cette étude, sondage, en fait, menée par le syndicat de la Commission scolaire de Montréal, l'Alliance des profs. Puis là, il faut faire attention aux manchettes, là, parce que ça dit un prof sur deux quitterait son poste d'ici 5 ans. Là-dessus, là, il y a un paquet de gens qui vont à la retraite. Alors, c'est sûr que d'ici 5 ans, il y a des profs qui vont prendre leur retraite, là, c'est clair. Puis il y en a d'autres qui vont accélérer leur retraite. Mais il demeure quand même un pourcentage assez élevé de profs qui veulent enseigner ailleurs ou carrément quitter la profession. Et on parle de pratiquement un prof sur 5. Moi, ce matin, là, j'ai besoin de vos infos. J'aimerais ça savoir les montants payés par les profs de leur poche parce que dans les écoles, c'est trop compliqué. Et là, je donnais hier l'exemple des papiers mouchoirs. Là. J'ai reçu tellement de courriels là-dessus. Mais j'aimerais ça que les profs m'écrivent en disant « Vous dépensez combien dans une année de votre poche? » là. Puis c'est pas remboursé. Certains me disent 100, 200, 300 $ facilement dans une année. À coût de 2 piastres, puis à coût de 5 piastres, puis d'aller chez Dollarama, puis acheter des gugus. J'aimerais ça juste qu'on ait peut-être, pas un portrait scientifique, mais une espèce d'aperçu de ça. Envoyez-moi un courriel si vous êtes prof, puis que vous prenez de l'argent dans vos poches pour acheter du matériel. Rapidement, en terminant, le président Trump qui impose des tarifs sur d'autres produits chinois, on parle de 200 milliards. Alors, ce sont des tarifs qui vont s'appliquer dans les prochains jours. Puis il y a une autre partie de l'augmentation qui va après Noël, parce qu'on ne veut pas trop affecter les ventes de Noël. Mais là, ça veut dire que, grosso modo, la moitié de tout ce qui se produit en Chine sera surtaxé. M. Trump dit que les pratiques chinoises causent un préjudice aux Américains. Apple n'est pas trop touché jusqu'à maintenant. Les produits qui sont déjà assez chers. Mais ça veut dire quoi? Que si on impose ces tarifs-là, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation pour le consommateur sur les coûts. Et pour ce qui est de l'accord de libre-échange, les Américains mettent énormément de pression pour régler ça vite, mais il semble que le Canada ait plutôt choisi d'attendre, de patienter en disant qu'il n'y a pas d'urgence. 6h22. On commence par la métropolitaine.